Je peux commander avec ça?
Oui.
OK. Ces derniers temps, moi j'étais avec mes enfants, mais c'est pour nous rappeler un peu ce que nous avons vécu il y a 6 ans maintenant. Oui, ça passe. 7? Ah oui, 7. Merci d'être. Mais en tout cas, c'était vraiment une joie pour nous de se rappeler qui était mamie au milieu de la famille. Et un psaume que nous avons lu presque chaque jour quand elle était à l'hôpital, c'est le psaume 23. Donc, nous allons méditer ensemble ce psaume. Et c'est vrai que dans ce psaume, il n'y a pas le mot espérance. Mais c'est un psaume qui contient presque ligne après ligne l'espérance. Donc nous avons pris comme devise que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. J'ai mis amour à la place de joie et paix parce que ce sont les vertus qu'on appelle théologales, l'espérance, l'amour, la foi. C'est ce qui spécifie notre relation avec Dieu. Dieu nous a devancés, il est l'Éternel, et c'est en écoutant sa révélation que nous pouvons avoir cette foi de nous accrocher à lui. Pourquoi? Parce qu'il a témoigné de son amour pour nous en Christ Jésus, et notre espérance est en lui. Jour après jour. Et j'essaie de noter les paroles du chant de tout à l'heure, que vous vous rappelez. Mais en tout cas, tu es le Dieu de l'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Et c'est vrai que notre Dieu est un Dieu qui est éternel, un Dieu qui nous parle, mais un Dieu qui agit aussi. Toujours en notre faveur. Alors, comme je vous ai dit, on va nous arrêter sur ce petit psaume. Je dis petit, parce qu'il n'y a que 6 versets là-dedans. Mais c'est peut-être, vous ne le connaissez pas par cœur. Personnellement, je sais que Lala le connaît par cœur. Mais personnellement, je n'arrive pas à retenir trop les versets, mais c'est peut-être par manque d'exercice. Mamie était ma concordance. Hein. Dès qu'il y a un verset que je ne connais pas, mamie, est-ce que tu sais où se trouve tel verset? Paf! Elle le connaissait bien. Mais il y a cette affirmation qui est là, au verset 1. Donc après avoir dit que c'était psaume de David, c'est un cantique, c'est un chant qu'il a composé. Eh bien, il y a cette affirmation d'emblée. L'Éternel est mon berger. Et nous allons nous arrêter juste sur quelques mots. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour David? Pour moi, c'est une confession. C'est-à-dire, il a proclamé qui est Dieu pour lui. L'Éternel est mon berger. Et d'emblée, il se place par rapport à ce Dieu. C'est qu'il ne s'appartient pas à lui-même. Sa vie ne lui appartient pas. Sa vie est entre les mains de l'Éternel. Donc il y a là une relation bien établie, une appartenance bien soulignée, mais ça induit aussi une allégeance. C'est que moi, je ne veux pas et je ne peux pas faire n'importe quoi. Si je reconnais qu'il est mon berger, eh bien, mon espérance est en lui. Ma foi est en lui. Mon amour est pour lui. Et quand il affirme après, mais c'est là aussi une confession, je ne manquerai de rien. Et là, ouais, on peut se poser des questions. Comment ça, je ne manquerai de rien? Quand on a lu ce psaume tous les jours à mamie, pour nous, il lui manque la vie, la santé, elle ne pouvait plus parler, on ne sait pas trop comment échanger avec elle, parce qu'elle était sous appareil. Et pour nous, il lui manque quelque chose, là. Mais mamie même, quand on a lu la première fois le psaume, il dit, est-ce que tu crois que l'Éternel est ton berger, qu'il ne te manque rien, mamie? Elle a acquiescé du geste, de la tête. Je ne manquerai de rien. Mais alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Si l'Éternel est là, sa présence me suffit. S'il me manque quoi que ce soit, Seigneur, tu es là. Sa présence nous fait beaucoup de bien. Hein, maintenant, j'allais dire, c'est le cantique de Rachel, mais il est là. Comme à un moment donné, il y a un cantique qu'on disait, c'est le cantique de Marie-Claude. Non, c'est l'hymne national d'Israël. Je ne m'appelle plus, peu importe. C'est pour dire que des fois, on s'attache à tel cantique parce que ça nous rappelle bien quelque chose. Ça nous rappelle que l'Éternel est là, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rien. Dieu a tout. Il a tout créé pour moi. Donc, je ne peux que me réjouir. Confesser qu'il est mon berger. Je lui appartiens. Je lui dois toute obéissance. Vous savez, la structure de ce petit psaume est très, très facile parce qu'il a cet énoncé du verset 1, la confession. Après, vient deux versets qui est centré sur Dieu. Et puis, les deux autres, c'est comment je suis face à ce Dieu, quant à moi. Et puis, il y a la conclusion du verset 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment la structure la plus facile qu'on puisse avoir quand on fait une étude biblique. Donc nous allons nous arrêter sur ces deux versets, le 2 et le 3. Il me fait prendre du repos dans des pâturages verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La traduction en cune que j'ai lue dit aussi « pour sa gloire ». Et ici, à côté, j'ai mis « Dieu agit pour nous ». Dieu agit en ma faveur. Gracieusement pour sa gloire. C'est la grâce de Dieu qui est manifestée ici. Il me fait prendre du repos, il me fait reposer, aussi dit notre traduction, dans de verts pâturages. Quel repos! Chantons-nous aussi souvent. Oui, le pâturage ici rappelle aussi que le berger, il sait où aller pour que les brebis aient à manger. Il sait où aller. Il sait ce qu'il faut réellement. Peut-être qu'il pleut, il sait aussi comment faire. Mais il prend soin de ses brebis. Il n'y a pas qu'à manger. Il y a aussi à boire. Il me dirige vers l'eau paisible ou près d'une eau paisible. Une eau, en fait, qui apaise, qui étanche ma soif. J'ai soif de beaucoup de choses. Hein. Dans notre vie, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais Dieu dit, chut, 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 stop. Tu veux ça? Non, c'est pas bon ça. Mais moi, je sais ce qui est bon pour toi. Et là, l'évocation de cette relation, de cet échange dans la prière, ça importe beaucoup pour David. Il parle de tout à son Dieu. S'il a les ennemis en face, oh Seigneur, ils sont là. Où es-tu? Manifeste-toi. Il me redonne des forces, justement, face à tout ce qui est adversité. On reviendra tout à l'heure dans les autres versets. Mais en tout cas, ici, ce qui est souligné, c'est qu'il me donne et me redonne des forces. Autrement dit, il ne va pas me laisser abattu face à telle ou telle situation. Il me donne la force de m'attacher à lui, la force de l'écouter, la force de lui obéir, la force de lui faire confiance, quoi qu'il y ait. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est vrai qu'on peut vivre une certaine injustice, peut-être que nous en connaissons ici ou là, mais en tout cas, il y en a un qui a bien vécu l'injustice, c'est celui qui a été cloué là, à la croix. Il a sévi l'injustice. Mais Dieu, l'Éternel, qui est mon berger, il me conduit. C'est avec assurance, il m'accorde toute sécurité, toute assurance, toute paix, toute joie, comme il a été dit avant, parce qu'il sait ce qu'il me faut. Et s'il le fait, déjà c'est pour mon bien, certes, mais pour sa gloire. Tout ce qu'il fait à moi ou à chacun de nous, il le fait pour sa gloire, pour que nous ayons un regard toujours fixé sur ce Dieu vivant et vrai. Et ici, quant à moi, c'est vrai que on connaît la vallée de la mort. Hier, j'ai regardé The Voice. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y avait une dame qui avait 95 ans, qui jouait du piano et qui chantait à ravir les spectateurs. Moi, j'ai dit, waouh, 95 ans. Et moi, j'ai commencé à compter les miens. Combien il me reste pour atteindre son âge là? Mais elle était radieuse. Moi, j'ai prié pour elle. Hein. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est par rapport à Christ. Moi, je me suis dit, mais ce serait bien qu'elle puisse, dans cet élan, chanter pour la gloire de Dieu, pourquoi pas? Mais la mort est toujours présente. Elle est là. Elle nous épie. Mais il est bien dit ici, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Emmanuel, Dieu est là. Il est avec moi. Il m'accorde toute sécurité, toute assurance. Et c'est en lui que je vais mettre, hein, c'est sous-entendu, mon espérance. Moi, j'ai écouté, comment on appelle ça? Oui, un message, mais c'était juste sur le psaume, sur le verset 5. Mais celui qui a prêché, il a brossé quand même. Il a situé le verset 5 dans l'ensemble de ce psaume 23. Mais ce qu'il a souligné, et ce que j'ai bien retenu de la part de ce prédicateur, c'est que Dieu ne nous laisse jamais enfermés ou emprisonnés dans une situation pénible. Il a l'issue. Il sait où, comment nous en sortir. Mais nous avons à mettre toute notre confiance en lui. Et j'essaie quand même de reprendre la traduction comme la traduction seconde qui parle de houlette et de bâton. Hein? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne sais pas si vous connaissez un petit livre, La méditation d'un berger. Si vous le trouvez, lisez-le. C'est juste sur le psaume 23, hein? Mais c'est le berger qui médite sur ce psaume et il sait ce que c'est que la houlette. Il sait ce que c'est que le bâton. La houlette, c'est quelque chose d'un peu fourchu. Et c'est pour ça que dans l'Église catholique, la plupart des évêques, ils ont leur... j'ai oublié le terme. Croche, merci. Mais vraiment, avec une croche. C'est avec une croche. Et la houlette a toujours une croche. Pourquoi? Parce que quand il y a une brebis qui tombe, par exemple, dans un ravin, eh bien, le berger, il cherche à l'attraper avec cette croche-là, d'une manière, peut-être à voir, ah, il va avoir mal parce qu'il va le prendre par le cou, il ne va pas le prendre par le pied. Mais peu importe, l'essentiel pour le berger, c'est de le sauver de ce ravin-là, c'est de le retirer de là. Et c'est ça le sens de la houlette. C'est que s'il y a danger, je ne crains rien. Il sait ce qu'il me faut. Il sait agir en ma faveur et pour sa gloire. Et le bâton, évidemment, c'est pour, des fois, hein, quand il a une brebis qui ne va pas avec les autres, il tape un peu sur le bâton. Ou bien s'il y a aussi un loup, je ne sais pas, en tout cas, un danger, le berger peut écarter avec ce bâton-là ceux qui cherchent à ravager, par exemple, la troupe, le troupeau plutôt. Mais en tout cas, la houlette et le bâton montrent bien l'assurance que peut avoir la brebis. Il a ce qu'il faut, le berger, pour le rassurer, pour le conduire, pour qu'il marche selon sa volonté. Ce n'est pas à la brebis de dire « Ah, oh, moi je vais à droite, je vais à gauche. » Non, il conduit le troupeau, il conduit les brebis. Ta conduite et ton appui, disent la traduction second 21 par exemple, à la place de houlette et bâton. Voilà ce qui me réconforte. C'est là que je vais puiser toute ma force pour avancer. Parce que cette vie, c'est un pèlerinage. Oui, je l'ai pris, pardon. Excusez-moi. Nous ne faisons que passer sur cette terre. Et au verset 5, donc, il y a « Tu dresses une table devant moi ». En face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Le Seigneur dresse une table. Ce qui est frappant ici, c'est qu'il y a des adversaires aux alentours. Peut-être j'arrive pas à manger parce que je pense plus à l'adversaire, aux adversaires, qu'est-ce qu'ils vont me faire. Mais là encore, c'est l'assurance. Mange tranquillement. Je te réconforte. Et l'huile sur la tête ou la coupe qui déborde, c'est une expression qui montre combien la personne est bien acceptée. Généralement, on fait cet accueil-là pour un convive, quelqu'un qu'on invite à sa table. Mais là, c'est bien dit. Tu es bienvenu à ma table. C'est Dieu qui nous invite à cette table. Et malgré les adversaires, on peut dire malgré les adversités, eh bien, tranquille. T'inquiète, comme disent les jeunes. Hein? Là, la présence de Dieu nous rassure. Tu es là? Quel bienfait. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Et nous arrivons... Non, avant ça, j'ai quelque chose à raconter. C'est une anecdote que j'ai entendue. Hein. Mais c'est un pasteur qui rend visite à une de ses ouailles. Et à chaque fois, la dame, en l'occurrence, disait toujours, ça va pas, ça va pas. Et à chaque fois que le pasteur y va, ça va pas, ça va pas. Et le pasteur ne savait vraiment pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? Parce que elle n'attend même pas que je dise quoi que ce soit, et puis ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il était un peu découragé, mais le pasteur a dit, mais écoute, Seigneur, tu la connais mieux que moi. Je ne sais même pas que dire, mais je prie pour elle. Et c'est vrai que des fois, quand on ne sait pas trop quoi dire à quelqu'un, il vaut mieux se taire. Hein. Des fois, on fait des dégâts en parlant. Mais le pasteur a prié. Puis un beau jour, la dame lui a téléphoné. Dit, pasteur, venez, venez, venez. Déjà, il y a un temps. C'est dans son habitude. Oh là là, qu'est-ce qu'il va encore me dire? Si c'est encore une réponse comme ça va pas. Pasteur, j'ai compris quelque chose. Ce matin, en me levant. C'est vrai que quand je me lève, je pense déjà à mes douleurs. Comment je vais faire pour faire ma cuisine, pour faire ceci. Et évidemment, elle a toute une liste de ses activités. Je dis maintenant, je sais. J'ai tout donné à Jésus. J'ai tout donné à Dieu. Il dit, maintenant tu t'en occupes. Mais moi je vais faire l'effort de m'appliquer quand même à t'honorer avec ce que avec ce que tu me donnes à pouvoir faire. Peut-être faire la cuisine, faire le ménage, mais ça fait. En tout cas, il a compris qu'il fallait tout remettre à Dieu et faire confiance en Dieu entièrement. Et le pasteur a dit Alléluia. Là, je n'ai rien à dire. On a prié ensemble, vraiment, à prier, à louer Dieu, parce qu'il est là. Oui, dit la conclusion de ce psaume, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. En fait, dans le temps de l'hébreu, il y a ce qu'on appelle imparfait et le parfait. Il n'y a que deux temps. Donc le parfait, c'est quelque chose qui est vraiment fait. Genre, je travaille, mon travail est fini. Et l'imparfait, c'est quelque chose qui est toujours en cours d'action. Et ici, quand il est dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, c'est l'imparfait, c'est-à-dire... ne cesse pas, en fait, de m'accompagner. Le bonheur et la grâce ne cessent pas de m'accompagner, non pas un jour, non pas deux jours, mais tous les jours de ma vie. Oui, j'ai mis juste à côté, hein, mais c'est pour... le tov, bon, des fois on le sent inématov, quand on dit qu'il est heureux quand on de se retrouver ensemble comme frères. Hein, c'est un chant que des fois on a chanté inématov manaim, shevetarim galam. Mais il a ce mot tov, c'est le bonheur. Mais en fait, dans le psaume 73 par exemple, il est dit mon bonheur c'est m'approcher de toi. Moi, j'aime bien ce verset. Mon bonheur, c'est m'approcher de toi. C'est auprès de toi, mon bonheur. C'est de reconnaître qu'il est là, le berger. Il m'accompagne, le berger. Il me protège, le berger. Il sait où me conduire, le berger. Il y a la grâce. Il y a le mot grâce ici, c'est ce que je dis souvent, que je rappelle souvent, je vais dire. Le mot chesed, c'est ce qui caractérise l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, avec Israël. C'est un attachement indéfectible. C'est une alliance faite une bonne fois pour toutes. Et cette alliance-là, certes, elle n'était pas parfaite dans l'Ancien Testament, mais c'est Christ qui est venu pour que cette grâce soit menée à sa fin, à son but. Et cette grâce, c'est de nous amener réellement à être en contact avec Dieu, pour que nous ayons cette joie du bonheur et de la grâce aussi, pour que nous le goûtions tous les jours de notre vie. Et j'ai mis en gras ici, « Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le « et » ici, c'est ce qu'on appelle le « et » consécutif, parce que Dieu est là à me prodiguer son bonheur et sa grâce, à m'assurer qu'il est là pour mon bonheur et pour toute la joie de ma vie, eh bien, je peux me reposer. Je peux demeurer, je peux habiter dans la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, certes, pour David ici, c'est vraiment Jérusalem, parce qu'il est loin de Jérusalem quand il compose tous ces chants-là. Mais son espoir, son espérance, justement, c'est de revenir à Jérusalem, d'habiter dans la maison de l'Éternel, et il ajoute, jusqu'à la fin de mes jours. Et vous savez que dans la croyance juive, quand ils sont morts, c'est qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est habiter la maison, mais alors être dans les bras de Dieu. Et c'est cette image, par exemple, que nous trouvons avec le parabole de Lazare et de... Attends, rappelle-moi, je ne m'appelle plus d'un coup. Lazare qui était vraiment bien du temps de son vivant, mais il y a une autre personne qui n'avait rien à faire de Dieu. Mais là, je ne m'appelle pas exactement la parabole, mais peu importe. Mais c'est juste pour souligner que quand il est dit « J'habiterai la maison de l'Éternel », c'est vraiment être dans le comble du repos. Le comble d'être bien, c'est vraiment le bonheur, la grâce. Pourquoi ? Parce qu'on est avec Dieu pour l'éternité. Et je crois que notre espérance est là et c'est ce que Dieu nous prépare. Notre combat est là, hein? C'est-à-dire il y a des choses qui ne vont pas toujours bien physiquement, même psychologiquement, relationnellement, etc. Mais ce sont des épreuves. L'épreuve, comme disait quelqu'un, ce n'est pas le but de la vie. L'épreuve est faite pour nous éduquer à voir qu'on n'a qu'à traverser. Ce n'est que passager. Toute épreuve est passagère. Et même la mort comme telle est passagère, mais l'essentiel c'est au-delà de tout ça. C'est la maison de l'Éternel. Je vais conclure avec ce psaume 27 que j'avais demandé à notre frère Alexis de lire au début du culte. Dans ce psaume, c'est à retenir parce que ça résume, j'allais dire, le psaume 23. Il y a ce verset 14 qui dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, le fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. » Ça rappelle un peu cette vallée de la mort, ses adversaires, ses adversités. Mais nous avons à avoir un cœur affermi. Non pas par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu. Et je rappelle que, juste ici, il y a deux mots pour dire « espérer » en hébreu. Il y a le mot « kava », c'est une corde. Hein. Mais la corde, il faut que ce soit tendu pour que ça puisse remplir ce qu'on attend d'elle. Mais c'est exactement, dans toute attente, il y a toujours comme une épreuve, c'est dans une certaine tension. Mais même dans cette tension-là, il faut voir l'autre mot qui dit aussi espérer en hébreu, c'est le ha'al, c'est attendre, espérer, et surtout s'attendre à. Il y avait un cantique tout à l'heure, je ne me rappelle plus lequel, mais en tout cas qui nous a rappelé comme quoi nous avons à nous attendre à Dieu. Et c'est vrai que notre espérance vient certes de Dieu, l'espérance, que le Dieu de l'espérance, c'est-à-dire que l'espérance est de Dieu, mais cette espérance-là, quand elle est donnée par Dieu, elle nous est donnée pour être entretenue, pour que nous l'entretenions, et par la puissance de cette espérance, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de dire, ça, ce n'est qu'une épreuve, ce n'est pas éternel, tu peux traverser cette épreuve avec la force, la puissance que je te donne par mon esprit, que je te donne par ma parole. Et c'est comme cela que nous pouvons réellement avoir cet esprit d'espérance et espérer en l'éternel. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce psaume 23. Merci aussi pour ce psaume 27 qui nous rappelle combien nous devons mettre toute notre espérance en toi. C'est toi que nous espérons. C'est toi que nous attendons. Seigneur, nous savons que nous avons la plupart ici, avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et bien, nous reconnaissons aussi que nous sommes dans l'attente de son retour. Mais nous te remercions beaucoup parce que malgré les adversités, malgré les épreuves, malgré les malheurs peut-être que nous pouvons connaître sur cette terre, nous savons que nous pouvons vaincre tout cela par la puissance de ton Saint-Esprit. Et merci encore pour ce cadeau merveilleux que tu nous as donné. Ce Saint-Esprit qui nous guide jour après jour au travers de ta parole à marcher, à avancer, à reconnaître que nous ne faisons que passer sur cette terre, mais c'est toi qui nous réserves la meilleure part. Gloire à toi, en Christ Jésus. Amen.
Amen.
Ouais, je laisse là.
Je t'aime ça. C'est pas de la création de soucis.